Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux alors que vous auriez pu profiter d'une terrasse ensoleillée. C'est ce que j'ai noté en venant. Merci à la librairie Mola de nous accueillir pour ces soirées santé. Merci au CHU de Bordeaux de les organiser. Moi, j'aurai des remerciements particuliers à faire à Madame Perret-Châtelain et Madame Ville-Suzanne qui m'ont aidé à flouter les visages dans les vidéos que je vais vous présenter. D'ailleurs, j'espère au passage que je ne vais pas heurter vos sensibilités parce que c'est des patients qu'on va montrer. Et puis, j'ai des remerciements aussi pour mes collègues et amis, le professeur Dominique Gaël et le docteur Édouard Courtin, avec qui j'ai le grand bonheur de travailler au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelques pathologies des habitudes. J'ai choisi trois exemples. Mais avant de s'intéresser à des maladies, on va déjà définir ce qu'on entend par le terme habitude. Si on regarde dans le dictionnaire, il vient du mot latin habitudo, qui signifie manière d'être. Je préférerais utiliser une autre définition qui est un peu plus opérationnelle. Une habitude, c'est une manière usuelle d'agir. Les habitudes, de façon générale, correspondent à un comportement semi-automatique ou subconscient, si vous voulez, que nous mettons en jeu sans y penser. Vous avez tous fait cette expérience de prendre votre voiture le matin pour aller au travail ou éventuellement votre vélo, d'avoir pensé à des tas de choses au long du trajet et d'arriver à destination en vous disant « Ah, je suis déjà arrivé » sans à aucun moment n'avoir pensé que vous étiez en train de conduire. Mais si, par hasard, il se passe un événement inattendu au cours du trajet, un chien qui déboule devant votre voiture ou un accident, à ce moment-là, immédiatement, vous allez adapter votre comportement en conséquence. En d'autres termes, vous êtes passé d'un mode de fonctionnement en pilotage automatique, qui dépend essentiellement de structures sous-corticales, à un mode de fonctionnement en pleine conscience, qui, lui, va dépendre des régions corticales. Alors, si ces habitudes existent, c'est qu'elles nous sont utiles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles nous permettent de mener de concert à la fois des activités routinières qui n'ont sans doute pas beaucoup d'intérêt, puis des activités qui peuvent être plus cognitives ou ludiques. Imaginez un seul instant que vous deviez penser à tout ce que vous faites. Vous marchez, vous vous dites « il faut que j'avance le pied droit », il faut que j'avance le pied gauche, il faut que j'accélère le pas pour aller plus vite, il faut que je fasse attention au demi-tour à pas trébucher pour ne pas tomber. Vous ne faites jamais ça. Quand vous marchez, vous le faites. Vous ne dites pas « je suis en train de marcher ». Or, dans certaines pathologies, et c'est le cas notamment dans le cadre de la maladie de Parkinson, on le verra tout à l'heure, eh bien, le sujet est obligé en permanence de penser à ce qu'il fait quand il n'est pas traité. Alors, ces habitudes, en fait, représentent une composante majeure de nos personnalités et déterminent nos attitudes corporelles, notre mode de pensée, nos états d'humeur. Bref, elles gouvernent nos vies. Et c'est tout particulièrement vrai dans un contexte social. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous salue, si vous êtes bien élevé, en principe, vous allez lui répondre. Si on vous tend la main, vous allez serrer la main, sauf si intentionnellement, vous n'avez pas envie de le faire. Mais ça, c'est autre chose. Alors, pour certaines de ces habitudes, on peut se dire qu'elles ne servent à rien, qu'elles sont inutiles. C'est, par exemple, le cas des stéréotypies. Est-ce que j'ai un stylo, quelque part ? Ces stéréotypies qu'on appelle des stéréotypies bénignes, par opposition aux stéréotypies qu'on observe chez les enfants autistes, par exemple. C'est, par exemple, ces activités où vous discutez avec quelqu'un, vous avez un stylo à la main, vous n'arrêtez pas de tripoter votre stylo, vous pouvez vous dire « ça ne sert à rien », ou bien vous êtes assis sur une chaise et vous balancez la jambe ou la chaussure, enfin bon, peu importe. Eh bien, même ce type d'habitude ont un sens, parce que ce sont des activités en quelque sorte de réassurance qui ont une fonction anxiolytique. Et on retrouve ça notamment dans tout ce qui est la ritualisation, chez les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau. Hein, vous avez tous vu des tennisman au moment du service, mais en fait, ces activités de ritualisation, nous les avons tous. Hein. C'est quelque chose d'assez banal. Et on peut même aller encore plus loin, si on considère les cérémonies de ritualisation symbolique qui traversent nos existences, on peut se demander, sur le plan évolutif, c'est finalement, il n'y a pas un continuum avec les autres types de ritualisation, mais là on sort peut-être un peu du sujet. Alors, sommes-nous les seuls à avoir des habitudes ? Bien sûr que non. Tous les animaux ont des habitudes. Et c'est ce qui a permis à Descartes, à tort, de dire que les animaux étaient des machines. C'est faux. Les animaux ressentent des émotions, ont des activités cognitives. Alors, j'en profite ici pour montrer ces magnifiques dessins de mon ami Michel Piana, qui a illustré l'ouvrage avec Lorena Delgado, qui est un peu plus loin dans la salle, et je les remercie pour leur travail. Alors, si on se penche un petit peu sur l'évolution du système nerveux central chez les vertébrés, on s'aperçoit que lorsqu'on passe des poissons aux mammifères, en fait, il y a peu de modifications. C'est-à-dire que déjà chez les poissons, et même chez les poissons les plus primitifs, tous les organites, les cinq grandes régions du cerveau, étaient déjà en place. Et finalement, ce qui va faire l'évolution, là, il faut que je prenne ma... Voilà. Ce qui va faire l'évolution, voilà, c'est la partie la plus antérieure du cerveau qu'on appelle le télencéphale, qui apparaît ici en brun sur cette diapositive. Et vous voyez qu'elle va prendre une place de plus en plus considérable. Mais la véritable révolution va se produire entre les oiseaux et les mammifères, avec l'apparition chez ces derniers. Alors, je ne suis pas très habile avec le pointeur, là. Voilà, avec l'apparition chez ces derniers d'un véritable cortex cérébral. Et c'est tout à fait fascinant, parce que si vous prenez deux oiseaux de la même espèce, on va dire par exemple deux moineaux, il est quasiment impossible de les différencier, de dire qu'il y en a un qui s'appelle Pierre, l'autre qui s'appelle Paul. Pourquoi ? Parce que leur comportement est fait de stéréotypie, c'est-à-dire qu'en pratique, ils font tous la même chose. Alors que vous n'avez pas deux mammifères, et c'est encore plus vrai chez l'homme, qui ont exactement le même comportement, le même habitus, la même cognition. Et ceci est le résultat du développement du cortex cérébral. Alors, chez l'homme, à la naissance, le cerveau est totalement immature. On peut même dire que c'est le cerveau le plus immature du règne animal. Et c'est une grande chance, parce que cette immaturité originelle va lui donner les plus grandes capacités de développement. Chez l'homme, très peu de comportements sont innés. On peut citer, par exemple, l'exemple de la tétée, hein, classiquement. On n'a pas appris un nourrisson à tétée, pourtant il va rechercher le sein de la mère de façon spontanée. C'est donc véritablement un comportement inné, encore que l'allaitement n'est pas toujours aussi simple que ça, en pratique. Hein. Je vois des dames qui sourient, là. Alors, ces comportements innés, en fait, correspondent à des sortes de réflexes sensorimotrices pré-câblés qui ont été sélectionnés par l'évolution. Il y en a très, très peu, et qui correspondent à chaque fois à des fonctions véritablement vitales. Donc, le cerveau va se développer grâce aux apprentissages que vont faire les enfants, et ces apprentissages sont très, très longs. Pour arriver à une marche correcte chez un nourrisson, il faut attendre parfois 18 mois, voire plus, des fois plus tôt, mais en moyenne, c'est ça. Vous avez tous vu ces images de poulains qui, juste après la mise à bas, au bout de quelques minutes, vont suivre leur mère et gambader à leur côté. Donc la progression chez l'homme est beaucoup plus lente, et cette progression se fait au travers des apprentissages que fait l'enfant, et ces apprentissages qui vont permettre le développement véritablement du cerveau. Parce que signifie apprendre en termes neurobiologiques ? Eh bien, vous savez tous qu'au sein du cerveau, on a des neurones qui sont connectés les uns avec les autres par l'intermédiaire de synapses. Et ces connexions vont définir ici des circuits neuronaux. Et si un circuit neuronal est activé de façon fréquente, grâce à des phénomènes de répétition du comportement, eh bien, à ce moment-là, il va être conforté. Il va être conforté au travers de processus neurobiologiques qu'on appelle la potentialisation à long terme, qui est en lien avec la plasticité des synapses neuronales. Et vous avez au contraire d'autres circuits qui sont peu fréquentés, peu usités, peu bénéfiques pour l'individu. À ce moment-là, ils vont être inhibés. Si vous voulez, on peut prendre une analogie. Imaginez que vous êtes dans un sous-bois et vous avez face à vous deux chemins. Le chemin de gauche semble bien délimité, il y a de nombreuses traces de pas, donc vraisemblablement, il y a eu beaucoup de passages, vous le suivez, il vous amène quelque part. Mais comme vous êtes curieux, vous revenez en arrière, vous dites, tiens, mais je vais essayer le chemin de droite. Et le chemin de droite, il est mal défini, il y a beaucoup de végétation, il y a peu de gens qui sont passés. Et au bout de quelques mètres, vous apercevez qu'il y a un tronc au milieu du chemin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Revenez en arrière. C'est exactement ça qui se passe au niveau du système nerveux central. C'est la répétition de l'action au travers des apprentissages qui va pérenniser les circuits neuronaux. Et ce type d'apprentissage, pour ce qui est des habitudes, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, la mémoire des savoir-faire, la mémoire des habitudes. C'est la mémoire la plus solide. Même un sujet qui est dément se souviendra toujours comment on fait du vélo. Oui. Alors, je vous ai parlé de structures sous-corticales tout à l'heure. Les structures qui vont essentiellement nous intéresser ici, ce sont les noyaux gris centraux. Alors, ces régions sous-corticales, je vais essayer d'utiliser mon... Voilà, ces régions sous-corticales apparaissent ici, sur cette magnifique IRM 3 Tesla. Dans la région antérieure, on trouve une première structure qu'on appelle ici le striatum, un peu plus interne et un peu plus postérieure, une seconde, qui a un aspect un peu plus pâle. Donc on va l'appeler le globus pallidus, le globe pâle, ou plus simplement le pallidum. Et ensuite, si on va un peu plus en arrière, dans la partie haute du tronc cérébral, qu'on appelle le mésencéphale, il y a trois structures qui vont particulièrement nous intéresser ici. La première au centre, qui est la substance noire. À gauche, l'aire tegmentale ventrale. À droite, le noyau sous-thalamique. Et si vous regardez ici un agrandissement de ces structures, on s'aperçoit que la substance noire est faite de deux parties. La partie dorsale, que nous allons appeler la pars compacta, est richement pigmentée. Vous voyez, elle est noire, véritablement. De même que la structure qui est à côté, qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale. Eh bien, toute la dopamine du cerveau, quasiment toute la dopamine du cerveau, provient de ces toutes petites structures. Alors, on ne peut pas véritablement différencier l'activité du cortex et des régions sous-corticales. Pourquoi ? Parce qu'elles travaillent tout le temps ensemble. Et elles forment de véritables boucles fonctionnelles, cortico-sous-corticales, qui vont servir en fait au cortex à apprendre à apprendre. Alors, comment ça marche ? Eh bien, vous avez une structure... Peut-être que finalement, c'est mieux si j'utilise pas mon pointeur... Vous avez une structure d'entrée qui s'appelle le striatum. Donc le striatum, c'est cet aspect ici en fer à cheval. Oui, c'est une énorme région, puisqu'elle a à peu près la taille d'une balle de tennis dans votre tête, de chaque côté des ventricules latéraux. Chacun des neurones du striatum reçoit environ 10 000 entrées corticales. Quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de neurones au sein du striatum, vous pouvez imaginer la complexité de la connectique. Et donc, ce striatum, finalement, c'est un système de synthèse de l'information corticale. Et à partir de celle-ci, il va élaborer vos habitudes comportementales. Et cette information va être envoyée vers la principale structure de sortie des noyaux gris centraux, qui s'appelle le pallidum interne, au travers de deux voies, une voie directe et une voie indirecte. La voie directe sert à sélectionner les programmes utiles, par exemple les programmes moteurs, à un moment donné, dans un contexte donné. Et la voie indirecte va au contraire inhiber les programmes inutiles. Vous allez tout de suite comprendre. Imaginez que ça, c'est un téléphone, je veux le porter à mon oreille, donc je vais activer les muscles fléchisseurs des doigts, du poignet, de l'avant-bras, du bras. C'est le job de la voie directe, ça. Mais il faut qu'en même temps, j'inhibe les muscles antagonistes, les extenseurs, parce que si je ne le fais pas, eh bien, j'aurai un membre qui sera... tétanisé, je n'aurai pas un mouvement fluide. D'accord ? Donc on a besoin de ces deux voies. À partir de là, l'information est rebasculée vers le cortex cérébral, après un relais dans une région qu'on appelle le thalamus ici, le cortex cérébral qui est véritablement l'organe exécuteur du comportement. Et vous avez également des projections qui se font vers la substance réticulée du tronc cérébral qui apparaît ici, vers des centres qui régulent la locomotion, c'est-à-dire la marche, la posture et les mouvements oculomoteurs. Et dans ce schéma-là, un peu compliqué, je vous l'avoue, il ne faut pas oublier la dopamine, qui est ici, qui est issue, comme vous le savez maintenant, de la pars compacta de la substance noire, et qui va avoir un effet facilitant sur la voie directe, qui va donc... faciliter la mise en jeu des programmes au niveau du cortex. Alors, ce système que je vous ai présenté dans le cadre de la motricité, en fait, ça marche exactement de la même façon pour la cognition et pour les émotions. sélectionner la bonne pensée à un moment donné, sélectionner la bonne émotion de la même façon. La seule différence, c'est que les régions corticales d'origine et les régions sous-corticales sont légèrement différentes dans ces trois types de boucles, mais le mode de fonctionnement global est toujours le même, avec toujours l'importance prépondérante de la dopamine. Alors, on va parler maintenant de pathologie, en s'intéressant pour commencer à la maladie de Parkinson. Comme vous savez, sans doute, elle résulte d'une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire du mésencéphale dont on vient de parler. Vous avez ici un mésencéphale d'un sujet contrôle, donc qui n'a pas de maladie de Parkinson. Vous voyez très très bien ici cette substance noire qui est richement pigmentée. Vous avez en dessous le même mésencéphale chez un patient qui a une forme évoluée de maladie de Parkinson. Vous voyez que la dopamine a totalement disparu du cerveau. Donc c'est une maladie de la motricité avec globalement un syndrome hypokinétique. Il y a moins de mouvements spontanés. Avec un certain nombre de signes, j'en ai listé quelques-uns, ils ne sont pas exhaustifs, bien sûr, une akinésie, c'est-à-dire un retard dans l'initiation du mouvement, une bradykinésie, un mouvement qui est plus lent, une rigidité musculaire, une perte des automatismes moteurs, on va en voir quelques exemples tout de suite, un tremblement qui est initialement de repos, qui est ensuite plus sévère, des troubles axiaux, une dysprosodie, alors ça c'est un terme je pense que vous ne connaissez pas, la dysprosodie, c'est la perte de la mélodie du langage. Et puis, parfois, des troubles également cognitifs, notamment en rapport avec la planification de l'action, c'est ce qui rentre dans le cadre des troubles dysexécutifs. Alors, le mieux, toujours, quand on parle de mouvements anormaux, c'est de regarder des vidéos. Donc, j'ai pris le soin de flouter les visages. J'espère que mes patients ne seront pas reconnaissables. Donc voici, par exemple, un premier patient à qui on demande de se lever de son fauteuil. Donc, il n'a pas trop de difficultés. Par contre, vous allez voir que c'est plus difficile lorsqu'il commence à marcher avec une marche à petits pas, extrêmement sévère. Et vous voyez également qu'il y a une perte du ballon des bras, hein, des mouvements spontanés des bras, qui sont des choses qu'on apprend hein, au cours du développement. Et vous allez voir que le demi-tour est particulièrement difficile. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, hein, il est obligé de penser à tout. Donc demi-tour difficile, il est quasiment bloqué, c'est ce qu'on appelle un freezing ici. Et pour relancer la machine, il est obligé de faire un effort conscient. Là, vous avez un deuxième exemple, c'est un peu le même, on va passer rapidement. Regardez bien, il se lève et pof, il retourne. Donc il y a des problèmes de contrôle axial. Et lorsqu'on lui demande de marcher, bien évidemment, il est scotché sur place et c'est extrêmement difficile. Alors, dans les autres signes de cette maladie, enfin, qui sont au devant de la scène, on va dire, il y a également ce que j'ai appelé la bradykinésie, donc le ralentissement dans l'exécution du mouvement. Il s'agit ici d'un patient à qui on a demandé de faire le plus rapidement possible des mouvements de pince entre le pouce et l'index. Et vous voyez que l'exécution est ici particulièrement lente. Et puis ici, alors une forme quand même très sévère de tremblement, qui n'est plus qu'un tremblement de repos, mais qui est aussi un tremblement de position. Alors la question c'est, est-ce que ces programmes moteurs ont disparu du cerveau de ces patients ? Ben, pas du tout. Puisque lorsqu'on les traite avec des médicaments adéquats, qui sont des analogues de la dopamine, on en parlera tout à l'heure, eh bien, ils retrouvent peu ou prou une motricité normale. Donc, c'est les deux mêmes patients qu'on a vus tout à l'heure, qui est même, j'aurais envie de dire, hyper normal, qui est même exagéré, hyper kinétique. Vous voyez, la façon dont il marche, un peu chaloupé, là. Voilà, mais enfin, il balance les bras, il les balançait pas du tout tout à l'heure. Et là, vous avez un autre exemple. Donc là, on a un patient qui a des mouvements normaux au niveau du cou, c'est ce qu'on appelle des dyskinésies dopa-induites, mais il a quand même retrouvé, par rapport à tout à l'heure, une marche qui est sans comparaison, avec un traitement dopaminergique. Alors, quelle est la physiopathologie de la maladie ? Eh bien, toutes les maladies neurodégénératives sont liées à l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Et en fonction du type de maladie neurodégénérative, ça sera telle ou telle protéine. Dans la maladie de Parkinson, la protéine s'appelle l'alpha-synucléine. Elle va précipiter au sein des neurones dopaminergiques en formant des agrégats qu'on appelle les corps de Lévy. Et lorsque ces corps de Lévy prennent de plus en plus de place, petit à petit, ils vont étouffer les cellules et faire totalement disparaître les neurones dopaminergiques du cerveau. S'il n'y a plus de dopamine qui contrôle l'activité du striatum, à ce moment-là, la voie directe dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est plus active, donc une plus grande difficulté à mettre en jeu les programmes au niveau du cortex. La voie indirecte est hyperactive, au contraire, à ce moment-là, ça va être responsable des phénomènes de co-contraction musculaire qui sont responsables de la rigidité parkinsonienne. Alors là, on passe sur un autre extrême, sur un syndrome véritablement hyperkinétique, qui est le syndrome de Gilles-Latourette, vous en avez tous entendu parler. Là, le problème, c'est qu'on a plutôt des habitudes qui sont inadaptées au contexte. On peut définir les tics comme des mouvements ou des émissions vocales, soudains, brefs, intermittents, répétitifs, qui sont caractérisés par un côté impulsif et parfois violent. Ils sont contrôlables peu ou prou sous l'effet de la volonté, et leur réalisation provoque un sentiment de libération d'une tension interne. Alors, le début se produit dans l'enfance, dans un contexte souvent familial, parce que c'est une maladie génétique, le syndrome Gilles-Latourette, authentiquement, avec un maximum souvent de sévérité adolescence et puis une tendance à l'amélioration chez un grand nombre de patients au début de l'âge adulte. Il y a une prévalence, vous voyez, 2% de la population, c'est quand même élevé, hein, sachant qu'il y a des formes très variables de sévérité, extrêmement variables dans cette maladie. La plupart des formes, d'ailleurs, ne sont pas trop graves, contrairement à ce qu'on voit dans les médias, puisqu'évidemment, ce qu'on va vous présenter, c'est toujours les formes les plus théâtrales, on va dire. Ces tics sont toujours majorés par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et diminués plutôt par les activités de concentration. Donc là, je vous montre un de nos jeunes patients qui a 7 ans, dans mon souvenir. Alors, on ne voit pas très bien sur cette vidéo parce que le visage est flouté, mais enfin, il fait des grimaces. Vous voyez, il a des sortes de tics toniques au niveau des membres supérieurs. Ce n'est pas permanent, bien sûr, c'est intermittent en fonction du contexte. D'autres exemples chez des adolescents cette fois-ci. Donc là, vous avez un patient qui présente des tics cervicaux, que vous voyez là, qui sont parfois extrêmement violents, tellement violents que ça peut mettre en péril la moelle cervicale, parfois, dans les formes les plus sévères. Et ici, un deuxième exemple. Alors celui-là, je trouve, il est assez extraordinaire parce que on a l'impression que ces tics sont extrêmement étranges. Vous voyez, il se met les doigts dans la bouche. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Il n'y a pas vraiment de raison. Il fait des tas de choses surprenantes. C'est l'étrangeté qui est souvent frappant dans cette maladie. Vous voyez, il recommence. J'ai le souvenir d'une petite fille de 8 ans, qui, quand elle marchait dans la rue, se baissait pour lécher le sol. Absurde, vous avez trouvé ça absurde. C'est des enfants et des adolescents qui ont une intelligence normale, je dirais même plus souvent, parfois supérieure à la normale, parce qu'ils ont une célérité de la pensée absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes célèbres qui avaient des tourettes. Vous avez entendu parler, le plus célèbre, qui c'est? Vous savez? Mozart. Mozart avait un syndrome de Gilles-Latourette, du feu de Dieu. Voilà. Alors, on peut avoir aussi des tics vocaux. Alors là, vous avez des exemples. Donc là, je vais avoir besoin du son, sans doute. Ça, c'est une très belle vidéo parce qu'elle résume tout le syndrome. Donc vous voyez, là, des sortes de stéréotypies. Là, il se frotte les mains, le visage, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de raison. Il a des vocalisations. Un phénomène de touching, c'est un besoin irrépressible de toucher des objets ou de toucher des individus, éventuellement. Puis vous avez vu, il s'est donné une baffe. C'est une forme d'automutilation. Et dans cette pathologie, il y a parfois des formes extrêmement sévères d'automutilation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, pour ne pas vous effrayer. Et un deuxième exemple, ici, de tics vocaux. Alors vous imaginez la jeune en situation sociale. D'autant plus lorsqu'existe ce qu'on appelle une coprolalie qui a fait un petit peu la célébrité du syndrome, en quelque sorte. Donc, c'est la coprolalie, c'est ce besoin irrépressible de dire des mots orduriers. Voilà. Alors, il faut savoir que quand même, c'est classique, mais c'est relativement rare dans le cadre de cette pathologie. Mais c'est toujours ça que vous allez voir sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, troisième type de pathologie, les troubles obsessionnels compulsifs. Ça, vous savez tout ce que c'est. Ce sont des habitudes qui tournent en boucle ici. Donc, classiquement, les TOC associent des obsessions qui sont des pensées récurrentes, intrusives, qui sont génératrices d'anxiété et qui sont associées à des compulsions, qui sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux, dont la finalité est justement de diminuer cette anxiété produite par les obsessions. Alors, le mieux, comme toujours, nous sommes des comportementalistes et des cliniciens, c'est de regarder les vidéos. Donc là, je me suis permis d'utiliser une vidéo qui avait été faite il y a quelques années par des collègues parisiens et qui est passée sur M6. Donc là, la patiente ne sera pas floutée, mais avant, vous allez écouter, c'est très intéressant.
C'est pour ça que je mets mes coudes sur mes genoux pour être en avant et que la nourriture ne tombe pas sur mon vêtement, car sinon, c'est la catastrophe.
Cette obsession d'être souillé par la nourriture, Marcel la combat dans sa salle de bain en se lavant les mains et les avant-bras jusqu'à 30 fois après chaque repas. Tout cela s'effectue dans le silence et la concentration, selon un rituel bien précis. Pourtant, ce soulagement n'est que passager.
Ça me soulage sur le moment. Donc là, je viens de manger, je me suis lavée. Mais si jamais je dois retoucher de la nourriture, il faut recommencer le rituel. Donc c'est interminable.
Voilà. Et alors, lorsqu'elle quitte son domicile, lorsque vous quittez votre maison, vérifiez toujours que vous avez fermé à clé, mais chez elle, c'est un petit peu plus laborieux, avec tout un tas de rituels. Et elle insiste, mais c'est pas fini. Voilà, vous voyez des rituels comme ça. Et je suis sûr qu'elle compte quand elle fait ça. Alors, les obsessions sont associées, on l'a déjà dit, à des compulsions. Il y a souvent un lien entre les deux. Fréquemment, il y a des compulsions de vérification. C'est pour ça qu'on parle de maladie du doute. Mais il peut aussi y avoir des compulsions de rangement, de comptage ou de lavage. Alors, quelle est la physiopathologie de ces deux maladies qu'on peut qualifier de psychocomportementales ? Alors, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail. On retiendra simplement que dans les TIC, on a plutôt un dysfonctionnement des boucles cortico-sous-corticales limbiques, avec comme point de départ cortical cette région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur ici, et une région sous-corticale, le noeud accumbens, qui est tout simplement la partie ventrale du striatum dont on parlait tout à l'heure. Dans les TOC, on est plutôt dans un dysfonctionnement de la boucle cognitive avec un point de départ au niveau du cortex orbitofrontal et d'autres régions corticales. En fait, ces deux pathologies, on peut, pour le Tourette, c'est sûr, pour le TOC sans doute aussi, ce sont des pathologies neurodéveloppementales qui résultent d'une mauvaise mise en place des circuits qui relient le cortex cérébral et ses structures des ganglions de la base, et en particulier le striatum. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter ces maladies ? Eh bien, lorsqu'on a pu identifier un déficit dans un neurotransmetteur connu, à ce moment-là, on peut proposer des médicaments. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, vous le savez tous, sans doute, on remplace la dopamine par un analogue dopaminergique qui s'appelle la L-DOPA, qui est une drogue qui va pouvoir passer la barrière hématoencéphalique, qui sera ensuite retransformée en dopamine au sein du cerveau, ou des agonistes dopaminergiques, qui sont des molécules qui vont mimer l'action de la dopamine. Dans le cadre du syndrome de Gilles-Latourette, on a pu montrer avec des techniques de PET scan, donc une imagerie métabolique des récepteurs, qu'il existait une production excessive de dopamine dans le cerveau de ces patients, l'ordre de 10 à 20%. Donc on va utiliser des antagonistes dopaminergiques qui sont en pratique des médicaments antipsychotiques, c'est ce qu'on appelle également des neuroleptiques. Vous avez sûrement entendu ce terme-là. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que le meilleur modèle expérimental de Gilles de la Tourette chez l'homme, c'est les gens qui consomment de la cocaïne. Ils ont une impulsivité extrêmement importante et ils sont bourrétiques. Et la cocaïne, c'est la même chose que la dopamine. Enfin, c'est un agoniste dopaminergique. Pour ce qui est des TOC, le dysfonctionnement en termes de neurotransmetteurs, en tout cas, concerne un autre système, qui est le système sérotoninergique. C'est un autre type de neurotransmetteur. Là, il y a un déficit sérotoninergique. Et donc, on va utiliser des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont des médicaments qui vont augmenter le taux circulant de sérotonine dans le cerveau. Ce sont des antidépresseurs. La plupart des antidépresseurs appartiennent à cette classe thérapeutique. Alors, est-ce que ça suffit ? Vous allez pouvoir me répondre. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que pour modifier un comportement, il faut modifier des circuits neuronaux. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut faire de la rééducation. Alors, modifier les habitudes motrices, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Mais il peut être très utile, dans le cas de la maladie de Parkinson, de faire de la rééducation, de la kinésithérapie, par exemple, pour travailler sur la marche, sur la posture, sur l'équilibre. Faire de l'orthophonie pour éduquer une dysarthrie parkinsonienne ou une dysprosodie, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans le cadre des habitudes psychomotrices, le TOAT ou le TOC, à ce moment-là, on va utiliser des techniques qui s'appellent des thérapies cognitivo-comportementales. Alors, il y a tout un tas de techniques différentes. Je n'ai pas le temps ici d'entrer dans le détail. On retient simplement que c'est des techniques qui sont en quelque sorte des formes de remédiation cognitive qui nous permettent de modifier nos habitudes comportementales négatives. Et puis enfin, il y a une approche qui n'est quand même pas toute récente maintenant, puisque ça fait une trentaine d'années qu'on l'utilise un peu partout dans le monde, qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde, qui consiste à mettre en place une électrode dans une région précise du cerveau, avec une précision, une très haute précision, de l'ordre du millimètre. Bien sûr, tout ça se fait sous contrôle IRM. Et cette électrode est reliée par un câble à un stimulateur qui se trouve en région pectorale ou abdominale. C'est une sorte de pacemaker. Ça va délivrer un courant électrique qui va permettre de moduler l'activité de cette région de profonde du cerveau. Sur Bordeaux, c'est le professeur Cuny, neurochirurgien, qui met en place ces électrodes-là. Donc, c'est une technique qui existe depuis une trentaine d'années. La première indication, ça a été la stimulation cérébrale profonde, mais depuis, il y a bien d'autres indications qui ont émergé, le tremblement essentiel, les dystonies généralisées, qui sont des maladies génétiques, et puis aussi, depuis une dizaine d'années, les formes sévères de syndrome de Gilles-Latourette et les TOC. On a opéré, par exemple, sur Bordeaux, au cours des 10 ans qui ont passé, un certain nombre d'adolescents qui avaient des formes très, très sévères, qui, bien sûr, ne répondaient pas aux traitements usuels médicamenteux ou psychologiques. Alors, voici ici un exemple de patient parkinsonien. C'est une vieille vidéo. Je crois que c'est un des premiers patients qu'on avait opéré sur Bordeaux. Donc, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. C'est celui qui tremblait beaucoup. Donc, vous voyez qu'il marche avec difficulté, une marche à petits pas, un tremblement bilatéral extrêmement important. Et vous le voyez, donc avec la stimulation cérébrale seule, environ 6 mois, je pense, après la chirurgie, vous voyez qu'il marche quand même beaucoup mieux. Et alors, il y a encore des petits éléments, il y a encore un petit tremblement, mais enfin, c'est quand même sans comparaison. Vous avez ici un deuxième exemple de notre patient, donc c'est un peu le même tableau. Hein. Marche à petits pas, tremblement. Donc là, c'est au cours d'un test post-opératoire. Donc on fait 4 situations, sans et avec traitement, sans et avec stimulation. Donc là, tout est arrêté. Il n'a pas de tremblement, il n'a pas de stimulation. Et on le voit ici avec la stimulation. Donc quelques minutes après, peut-être une demi-heure après, vous voyez qu'il marche quand même beaucoup mieux. Il a retrouvé un ballon des bras, il ne tremble plus. Alors, jusqu'ici, le mode de stimulation qu'on utilisait, qu'on utilise toujours d'ailleurs, hein, c'est pas du passé, c'est le quotidien, était une stimulation chronique continue. On modulait de façon continue l'activité de cette structure profonde. Maintenant, depuis quelques années, est apparue la possibilité de développer un système d'interface cerveau-machine, c'est-à-dire qu'on va enregistrer l'activité neuronale au niveau de ces électrodes. Vous avez ici une électrode de stimulation avec 4 plots. Et on peut non seulement stimuler cette région, qui ici est le pallidome interne, peu importe, mais on peut aussi enregistrer l'activité neuronale. Et cette activité neuronale est représentée, c'est une activité oscillatoire, donc on peut la décrire sous forme de pic de fréquence ici. Et par exemple, dans ce, cet enregistrement qui est fait dans le pallium interne chez un patient dystonique. Vous avez plusieurs pics de fréquence dans le bêta, dans le low gamma et dans le high gamma. Et l'idée, c'est de chercher des marqueurs biologiques des maladies. C'est ce que font chez nous, notamment Dominique Gale et puis Édouard Courtin. Salut Dominique. Et donc l'idée, c'est d'identifier des marqueurs biologiques de tel ou tel signe de la maladie. Ça peut être un tremblement, ça peut être une rigidité, une akinésie, ça peut être une posture anormale dans une dystonie. Et à ce moment-là, de piloter la stimulation à partir de l'activité cérébrale. Donc, vous voyez, on enregistre dans le cerveau et on déclenche la stimulation directement. C'est un peu la philosophie des pacemakers sentinelles qu'on utilise en cardiologie, sauf que le cerveau, c'est un peu plus complexe quand même que le cœur. Il n'y a pas de cardiologue dans la salle, j'espère. Bon. Voilà. Alors, c'est ce que vous retrouvez ici. Là, on est toujours dans le pallidum interne, une électrode avec quatre plots. On fait des enregistrements étagés différentiels entre tous les plots, et puis on s'aperçoit ici qu'il y a une oscillation dans la bande de fréquence qui est à peu près de 8 Hz, ici, vous voyez, et que c'est au niveau du plot 2 qu'on a le pic le plus important. Donc on se dit, eh bien, on va stimuler sur le plot 2, et quand on fait ça, on s'aperçoit que ce pic oscillatoire autour de 8 Hz, ici, disparaît, et bien évidemment, parallèlement, le patient est amélioré. Eh bien, on arrive au bout de cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va en retenir? Eh bien, que les habitudes nous permettent d'automatiser nos comportements routiniers, nous libérant pour des tâches plus cognitives. Elles mettent en jeu des circuits qui passent par les nœuds gris centraux. De nombreuses pathologies se traduisent par des perturbations des habitudes et leur traitement repose souvent sur l'association de médicaments, mais toujours aussi de thérapie comportementale et éventuellement, on l'a vu, d'une stimulation cérébrale profonde. Voilà, je vous remercie de votre attention.